Bonjour à tous, bienvenue. Ce matin, le Bistrot de la Vie va parler de la rumeur ou encore des rumeurs. Peut-être que vous aussi, vous avez été victime, il n'y a pas d'autre mot, d'une rumeur. Ça se passe un peu partout, on verra le pourquoi et le comment avec mes invités. En tous les cas, si vous voulez leur poser des questions ou parler, vous, des rumeurs qui ont couru sur votre compte ou que vous avez entendues sur les autres, ou les rumeurs plus générales où on nous parle, bien sûr, on parlera de l'alimentaire, parce que la rumeur touche vraiment tous les secteurs. On parlera aussi beaucoup d'Internet ce matin. Vous nous appelez 08 92 68 89. On dit quand même... Non, 68 80 30. C'est n'importe quoi ce matin. 08 92 68 80 30. On dit que la rumeur n'a pas d'auteur. On la tient d'un tel qui lui-même, etc., etc., etc. Le recoupement est quasiment impossible. D'ailleurs, s'il l'était, la rumeur deviendrait une information. La rumeur circule souvent très vite et c'est même ce qui lui confère une apparence d'authenticité. On l'apprend de quelqu'un, puis un peu plus tard de quelqu'un d'autre, à peine déformé. Il y a donc finalement beaucoup de raisons pour adhérer à cette rumeur. Anodine ou dangereuse, les rumeurs occupent une place non négligeable dans notre univers quotidien. Il faut avouer également que bien souvent, beaucoup de rumeurs annoncent un péril imminent et que de plus en plus, le bouche à oreille est supplanté par le médium le plus rapide et le plus moderne à servir cette fameuse rumeur, Internet. Alors on va en parler de ces rumeurs, du mécanisme de la rumeur, avec tout d'abord Véronique Campion-Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors Véronique, vous êtes l'auteur, enfin le co-auteur de Sources Sûres, Nouvelle Rumeur d'aujourd'hui, c'est paru chez Payot. Et à vos côtés, il y a Pascal Froissart. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal, vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez un côté sociologue, oui?
On peut dire.
On peut dire. Hein.
Oui, on peut dire
hein,
aussi.
On peut dire. Vous êtes des sociologues tous les deux. Et alors Pascal, vous, la rumeur vous intéresse énormément. Vous avez beaucoup écrit sur la rumeur.
Oui.
Vous êtes tout jeune, hein, mais c'est quand même un sujet qui vous passionne, la rumeur.
Oui, je me suis intéressé à la rumeur effectivement assez tôt. J'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. Et puis après, j'ai continué sur mon petit bout de chemin. En me concentrant plus sur les théories de la rumeur que sur les rumeurs elles-mêmes. Et je suis donc... pas exactement sur le même plan que Véronique Campion-Vincent, parce que j'essaye toujours de me mettre à un niveau, de théorique. Là, je suis le théoricien de la bande.
Mais c'est pour ça que vous êtes là tous les deux ce matin, parce que largement complémentaire. Alors, justement, quand on lit un peu tout ce que vous avez écrit, hein, moi je pensais que la rumeur avait toujours existé. Et vous avez une thèse, vous dites qu'elle était quasiment inexistante jusqu'au milieu du 19e. Alors, je voudrais avoir une explication, puis je voudrais savoir ensuite si Véronique Campion-Vincent est d'accord avec vous.
Alors, cette grande thèse est en fait basée sur l'idée que les idées meurent et naissent à des périodes données de l'histoire, et que ça touche effectivement aussi la rumeur. Mais on pourrait parler de toutes les idées, en particulier, je sais pas, pour prendre une idée connue de tous, c'est l'idée d'inconscient. L'idée d'inconscient, avant Freud, avant les années 1890-1900, n'existait pas. L'idée elle-même n'existait pas. Alors que ça ne veut pas dire du tout que l'inconscient n'existait pas. Hein, mais l'idée, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup des gens se mettent à publier dessus et se mettent à en faire des théories, ça c'est quelque chose de nouveau. Et donc c'est la même chose pour la rumeur. D'ailleurs, à peu près à la même époque, il y a un auteur, enfin ou plutôt les premiers écrits que j'ai pu trouver sur la rumeur ne datent que de 1902 ou 1898, enfin à peu près dans ces périodes-là. Et cela me laisse à penser que on a donc inventé, alors je mets des grands guillemets non verbaux avec mes doigts là, qu'on a inventé la rumeur en 1902, ce qui ne veut pas dire que le phénomène lui-même n'existait pas avant, mais il était qualifié d'autre manière, et le mot rumeur lui-même existait avant, mais il désignait encore autre chose, ce qui fait que donc pour moi c'est un concept éminemment moderne qui est lié au développement des sciences sociales et des sciences humaines à la même époque, et qui a donc une histoire et une histoire qui peut être retracée à l'aide de soit des écrits des historiens, soit même donc des rumeurs elles-mêmes.
Mmh. Véronique Campion-Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Pascal?
Je pense qu'effectivement, ce qu'on appelle le regard scientifique, le regard des élites, s'est porté sur des phénomènes qui auparavant étaient considérés comme bruit stupide naissant de l'imbécile crédulité du peuple, ce qu'on lit très souvent au XVIIIe siècle, par exemple, où c'est un vrai problème ce que raconte le peuple, mais ce que raconte le peuple est disqualifié, pas jugé digne d'intérêt. C'est ça qui a effectivement changé, peut-être dans le sillage de l'inquiétude des élites devant, disons, des révolutions qui avaient eu lieu, n'étaient pas prévues, tout d'un coup ça s'est passé. Bon, ça montre qu'il y avait un certain nombre d'idées répandues et qu'on n'avait pas su voir. Donc on s'est montré beaucoup plus attentif et on a souvent considéré la rumeur comme une espèce d'annonciateur d'idées répandues dans... Bon, d'abord ça a été uniquement les couches populaires et puis maintenant on s'aperçoit que chaque milieu a ses rumeurs. Y compris ces princes qui nous gouvernent.
Absolument. Alors, on reste encore quelques secondes en 1902, hein, pour parler de, avec beaucoup de guillemets, de cet inventeur de la rumeur, enfin, du moins celui qui l'a pour la première fois désigné comme tel. Vous parlez de William Stern, qui est un psychologue allemand. Et alors, vous dites qu'il a inventé la rumeur, mais c'est surtout le protocole de Stern qui est intéressant. Alors, vous allez nous l'expliquer parce que c'est quelque chose de très basique, hein, pour nous, en tous les cas. Mais peut-être qu'en 1902, c'était bien d'avoir pointé le doigt sur ce mécanisme, enfin l'un des premiers mécanismes de la rumeur.
Voilà, en fait, on peut donc retracer l'histoire, l'invention de la rumeur par la mise en avant, ou la mise en pratique de ce protocole d'étude de la rumeur. C'est-à-dire que ce William Stern, qui est donc un psychologue à la base, qui est un psychologue même du témoignage, c'est-à-dire... Il s'intéressait à l'époque aux problèmes de mémoire, aux problèmes de psychologie du témoignage. Et à la fin d'un de ses bouquins, enfin d'un très gros article, il publie une annexe qui n'a à peu près rien à voir avec le texte dont il parle, puisqu'il parle de psychologie du témoignage. Et on ne peut pas vraiment dire que la rumeur, à ce moment-là en tout cas, avait véritablement un lien. Mais il fait donc une annexe sur le protocole de la rumeur. Il appelle ça donc une expérience sur la rumeur. Et il met en place tout simplement un jeu que nous connaissons parce qu'il est passé dans les mœurs, c'est le jeu du téléphone, ou le jeu du téléphone arabe, ou le jeu, on a plein de dénominations aujourd'hui pour désigner ce protocole-là. C'est-à-dire tout simplement, on met des gens les uns à côté des autres et on leur demande de faire passer à son voisin une histoire. Alors la plupart du temps, c'est une histoire drôle aujourd'hui. À l'époque, c'était une histoire criminelle, enfin une histoire, un fait divers. Et on compare à chacune des étapes de la chaîne, on compare l'état du récit. Et on s'aperçoit, mais c'est joué d'avance, on s'aperçoit évidemment que le récit évolue vers un nouveau sens, il perd du sens, il gagne du sens, enfin il se modifie au cours de sa route. Et la conclusion de William Stern, c'est de dire, vous voyez bien que cette rumeur-là de laboratoire modélise le phénomène de la réputation, puisque c'était comme ça qu'il commençait son expérience, en disant, voilà, c'est ça, c'est de la même manière qu'une réputation se fait et se défait. Là où il, en fait, invente quelque chose de nouveau, c'est qu'il prétend que la rumeur va toujours vers une modification, vers le moins, vers le négatif, vers le négatif, péjoratif.
D'ailleurs, il y a pas mal d'expressions qu'on trouve sur la rumeur. On dit que la rumeur, elle court, et lui, Stern, il dit, elle tue.
Alors, il ne le dit pas réellement,
oui,
il ne le dit pas réellement,
mais c'est ce qu'on
il va vers cette idée-là.
Hein.
Exactement, il va vers cette idée-là. Alors que nous, maintenant que nous disposons de ces outils-là, lorsqu'on étudie les rumeurs, on s'aperçoit qu'elles sont au contraire très stables et qu'elles ne bougent très, très, très peu. Je ne sais pas, prenons la rumeur sur, je ne sais pas moi, le sida d'Adjani qui n'a jamais eu lieu, visiblement. Tout le monde, enfin, les variations sur cette rumeur-là étaient très faibles. Et donc, ça va tout à fait à l'encontre de cette hypothèse que plus elle avance, la rumeur, et plus elle perd en sens. Même chose avec Paul McCartney qui serait mort dans les années 70. Même chose. Il y a eu des variations, mais très peu par rapport au nombre de gens qui étaient au contact de cette rumeur-là. Donc ça va... C'est ça qui est assez étrange, c'est que la théorie ne correspond pas avec ce que nous voyons, et malgré tout, on essaye de faire coller la théorie à ces phénomènes.
Alors là, on vient de citer deux personnages publics. On verra... Il y a pas mal d'exemples dans votre livre où on verra ensemble qu'il y a des choses plus générales qui touchent plus la société. On va en parler longuement. Je voudrais vous citer quand même deux phrases sur la rumeur. Une qui est signée Victor Hugo, qui est très très belle. Il dit « La rumeur est la fumée du bruit ». C'est pas mal, ça.
C'est une jolie formule.
C'est une jolie formule. Hein. Et puis, Jean-François Revel, on pense que c'est de lui. Et j'ai l'impression que ça date depuis la nuit des temps. Il dit « La rumeur, le plus vieux média du monde ». C'est pas faux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est plutôt Capferrère quand même qui a dit ça.
Plutôt Capferrère. Donc Jean-François Revel, on l'aime beaucoup, mais quand même.
Non, c'est pas lui. Mais je crois que je vais rebondir plutôt sur la seconde formule, celle de Capferrère. Le plus vieux média, ça voulait dire que c'est un moyen de communication formidable à l'intérieur de ces couches. Et je crois que quand j'ai commencé, moi, à travailler sur ces sujets, on disait couramment que la rumeur allait bientôt disparaître parce qu'elle était liée à un défaut d'information, elle était liée à des périodes de crise, comme la guerre, ou des famines, des émeutes, et pendant lesquelles on n'avait pas nos canaux normaux de communication, et que maintenant qu'on avait des canaux de communication, elle allait disparaître. Ça a été au contraire une croissance exponentielle et je pense que c'est certainement lié au fait que les gens n'avaient pas prévu que quand on reçoit 50 messages par jour venant des radios, des ceci, des cela, nous enjoignant très souvent d'acheter ou de procéder à tel comportement commercial, on ne sait plus que faire et on se réfugie vers les proches. Et donc la communication avec les proches a gagné plutôt que perdu en valeur dans un monde saturé d'informations. Ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est ce qui se passe. Donc c'est ça, la rumeur le plus vieux média du monde, c'est la plus vieille façon et la plus stable, en tout cas dans un monde actuel qui n'a rien à voir au point de vue univers de communication avec l'ensemble des nouvelles, disons même pas de nos ancêtres très lointains, mais de nos ancêtres par exemple du XVIIe siècle, où il était criminel de parler de quelque chose qui concernait le gouvernement. Nous avons aussi connu ça récemment dans d'autres pays. Mais donc nous sommes dans un univers, et pour comprendre ce qui se passe comme rumeur, il faut bien voir l'état des médias, de l'ensemble des médias. Et ça n'est que par là qu'on peut saisir ce qui fait la force.
Est-ce qu'il y a une grande différence entre la rumeur et le ragot ?
La rumeur, c'est un ragot qui porte... Enfin, le ragot, pardon, c'est une rumeur qui porte sur des personnes, qui nomment des gens, qui peuvent être nos voisins, qu'on connaît...
Nos amis.
Nos amis, c'est plus intéressant. Ouais. Ou encore des gens qu'on connaît parce qu'on les voit dans le journal. Enfin, Paul McCartney est un voisin de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'ai plus grand mal effectivement à faire ce genre de distinction parce qu'elles sont extrêmement difficiles. Je crois que c'est moins dans la définition qu'on trouvera des solutions que dans l'analyse de nos... de nos intuitions. C'est plus proche de l'intuition, la différence entre rumeur et ragot. Il y a des gens qui vont s'estimer victimes de rumeurs, alors que de fait, ils seront peut-être victimes de commentaires sur leur comportement venant de la part d'amis. La rumeur, est, en fait, comme le ragot, ce sont des mots qui sont très très malléables et qui peuvent servir à de multiples occasions. Ceci dit, chose étrange, il n'y a pas de théorie du ragot. Il n'y a que des théories de la rumeur.
Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans le mot ragot, il y a une part de choses réelles, alors que dans la rumeur, tout peut être complètement inventé. Est-ce qu'il n'y a pas cette petite nuance ? Je m'adresse à deux spécialistes.
On peut l'avoir, on peut le voir comme ça.
Moi, je verrais plutôt ragot comme correspondant à des petites communautés. Si vous voulez, c'est connu qu'à Paris, c'est pas très intéressant de médire de ses voisins, puisqu'on ne parle pas avec les gens qui sont sur le même palier.
On
ne les connaît pas. Mm-hmm. Donc, il faut des gens qu'on connaisse. C'est pour ça qu'il y a toujours ces commerçants qui jouent des rôles emblématiques sur lesquels il peut circuler des choses, parce que tout le monde connaît le boulanger, a remarqué que la boulangère faisait la tête aujourd'hui. Vous voyez, il y a des côtés comme ça.
Mm-hmm. Est-ce que ça fait partie de la nature humaine, ces rumeurs, ces ragots? Est-ce que ce serait bien ou mal de totalement balayer cette notion de rumeur ou ragot? Ou franchement, ça fait partie de la nature humaine?
Je répondrai en combinant votre question avec la réponse de Véronique Campion-Vincent tout à l'heure. C'est si l'on enlève le côté péjoratif de rumeur et ragot, alors moi je suis tout à fait prêt à penser que c'est dans la nature humaine. Si en revanche on laisse le côté péjoratif qui était compris dans le regard d'élite que nous portons sur ces phénomènes-là, à ce moment-là je suis moins d'accord. Je ne crois pas que dans la nature humaine il y ait cette face noire de l'âme humaine qui serait une face particulièrement nécessaire, enfin une sorte de présence du mal ou des choses comme ça. Non, je crois que de toute manière, il y a dans la communication humaine en général, mais ce que nous faisons aujourd'hui en fait partie, des aspects positifs, négatifs, qu'il y a des aspects avec des intentions plus ou moins louables, mais on ne peut pas, à mon avis, centrer toute la communication humaine en disant, centré sur cet aspect-là, justement très noir et très, très malsain, hein, de la rumeur ou du ragot tel qu'on l'entend généralement. Donc c'est pour ça que je répondrai un petit peu en modifiant la question, en disant, oui, la rumeur et le ragot font partie de la nature humaine, à condition qu'on ne croit pas que ce soit ni le centre, ni l'aspect purement négatif de la chose.
Très bien. On va dans quelques instants détailler le mécanisme d'une rumeur. On va voir comment elle naît, comment elle progresse, quels sont les moyens plus ou moins modernes. Et on en a maintenant des très modernes à notre disposition. Juste avant, on va marquer une première pause. Et bien sûr, si vous avez envie de nous appeler, de témoigner, de parler de ces rumeurs, de ces ragots, si vous en avez été victime ou si vous êtes l'initiateur d'une rumeur, allez savoir, ça peut démarrer comme un canular, il y a des fois c'est pas méchant et puis ça prend de l'ampleur. On en parle avec vous bien sûr et avec mes invités. Le standard est ouvert 08 92 68 80 30.